Paris, livre 2, chapitre 3. Trois jours se passèrent. Dans la petite maison de Neuilly, Guillaume, brûlé de fièvre, cloué sur cette couche où l'impatience le dévorait, se sentait repris d'une anxiété croissante chaque matin à l'arrivée des journaux. Pierre avait beau essayer de les faire disparaître. Mais il voyait alors son frère se tourmenter davantage, et c'était lui-même qui devait lui lire tout ce qui paraissait sur l'attentat. Un extraordinaire flot dont les colonnes ne désemplissaient plus. Jamais pareil débordement n'avait encore inondé la presse. Le Globe, si prudent, si grave d'ordinaire, n'était pas épargné, cédait à ce coup de folie de l'information à outrance. Mais il fallait voir les journaux sans scrupule, la Voix du Peuple surtout, exploitant la fièvre publique, terrifiant, détraquant la rue, pour tirer et vendre davantage. Chaque matin, c'était une imagination nouvelle, une effroyable histoire à bouleverser le monde. On racontait que de grossières lettres de menaces étaient adressées journellement au baron du Villard pour lui annoncer qu'on allait tuer sa femme, sa fille, son fils, l'égorger lui-même, faire sauter son hôtel, à ce point que, jour et nuit, cet hôtel était gardé par une nuée d'agents en bourgeois. Ou bien, il s'agissait d'une stupéfiante invention, un égout du côté de la Madeleine dans lequel des anarchistes étaient descendus, minant tout le quartier, apportant des tonneaux de poudre, un volcan où devait s'engloutir une moitié de Paris. Ou bien, on affirmait qu'on tenait la trame d'un immense complot, enserrant l'Europe entière, du fond de la Russie au fond de l'Espagne, et dont le signal partirait de la France. Un massacre de 3 jours, les boulevards balayés par la mitraille, la Seine rouge roulant du sang. Et, grâce à cette belle et intelligente besogne de la presse, la terreur régnait. Les étrangers épouvantés désertaient en masse les hôtels. Paris n'était plus qu'une maison de fous, où trouvaient créance les plus imbéciles cauchemars. Mais ce n'était pas ce qui troublait Guillaume. Il ne s'inquiétait toujours que de Salva, que des nouvelles pistes où se lançaient les journaux. Salva n'était pas encore arrêté, et même jusque-là, aucune information n'avait indiqué qu'on fût sur ses traces. Puis, tout d'un coup, Pierre lut une note qui fit pâlir le blessé. « Tiens, il paraît qu'on a découvert parmi les décombres, sous le porche de l'hôtel du Villard, un outil, un poinçon, sur le manche duquel se trouvait un nom, Grand Didier, celui d'un usinier connu. Et ce Grand Didier doit être appelé aujourd'hui chez le juge d'instruction. » Guillaume eut un geste de désespoir. Allons, cette fois ils y sont, ils tiennent la bonne piste. C'est sûrement Salva qui a laissé tomber cet outil. Il a travaillé chez Grand Didier avant de venir faire quelques journées chez moi. Et par Grand Didier, ils vont savoir. Ils n'auront plus qu'à suivre le fil. Pierre, alors, se souvint de cette usine Grand Didier, dont il avait entendu parler à Montmartre, et où Thomas, le fils aîné, le mécanicien, travaillait parfois encore, après y avoir fait son apprentissage. Mais il n'osait toujours pas questionner son frère, dont il sentait les angoisses si graves, si hautes, si dégagées de toute basse crainte personnelle. « Justement, » reprit Guillaume, « tu m'as dit que Thomas allait travailler à l'usine pendant mon absence pour ce moteur nouveau qu'il cherche, qu'il a presque trouvé. Et s'il y a perquisition, les vois-tu interrogées, ne voulant pas répondre, défendant son secret ? Oh, il faut le prévenir tout de suite !» Complaisant, Pierre s'offrit, sans le forcer à préciser davantage son désir. « Si tu veux, j'irai voir Thomas à l'usine cet après-midi. Et en même temps, je rencontrerai peut-être M. Grand Didier. Je saurai ce qui s'est dit chez le juge d'instruction et où en est l'affaire. » D'un regard mouillé, d'une tendre pression de main, Guillaume le remercia. Oui, oui, frère, fais cela, ce sera bon et brave. D'autant plus, continua le prêtre, que je voulais aller à Montmartre aujourd'hui. Sans te le dire, je suis hanté par un tourment. Si ce Salvat est en fuite, il a dû laisser là-bas la femme et l'enfant toute seule. Je les ai vus le matin de l'attentat, dans un tel dénuement, dans une telle misère, que je ne puis songer à ces pauvres créatures abandonnées, mourant de faim peut-être, sans un déchirement de cœur. Quand l'homme n'est plus là, l'enfant et la femme crèvent. Guillaume, qui avait gardé la main de Pierre, la serra plus étroitement, et d'une voix qui tremblait, « Oui, oui, ce sera bon et brave. Fais cela, frère, fais cela. » Cette maison de la rue des Saules, cette atroce maison de misère et de souffrance, elle était restée en la mémoire de Pierre comme l'abominable cloaque où le Paris pauvre agonisait. Et de nouveau, cet après-midi, quand il y retourna, il la retrouva dans la même boue gluante, la cour salie des mêmes ordures, les escaliers noirs, humides, empuantis par le même abandon et la même détresse. L'hiver, lorsque les beaux quartiers du centre sèchent, se nettoient, les quartiers des misérables là-bas restent sombres et fangeux sous le piétinement continu du lamentable troupeau. Connaissant l'escalier des Salvats, Pierre le prit, monta au milieu des cris d'enfants, des petits qui hurlaient, puis qui se taisaient tout d'un coup, laissant tomber la maison à un silence de tombe. La pensée du vieux Laveuve, mort là comme un chien au coin d'une borne, lui revint, le glaça. Et il eut un frisson lorsque, tout en haut, ayant frappé à la porte, le grand silence seul répondit « Pas un souffle, pas une âme ». Alors il frappa de nouveau et, comme rien encore ne bougeait, il pensa qu'il n'y avait personne. Peut-être Salvat était-il revenu prendre la femme et l'enfant. Peut-être l'avait-elle suivi ailleurs, au fond de quelque trou, à l'étranger. Cela l'étonnait pourtant, car les pauvres ne se déplacent guère, meurent où ils souffrent. Et il frappa doucement une troisième fois. Dans le silence, enfin, un léger bruit, un bruit de petits pas se fit entendre. Puis, une voix frêle d'enfant se risqua, demanda « Qui est là ?»«
Monsieur l'abbé !»
Le silence recommençait, plus rien ne remuait. Un débat, une hésitation.
« Monsieur l'abbé qui est venu l'autre jour !»
Cela dut faire cesser toute incertitude, la porte s'entrebâilla, et Céline, la petite fille, laissa entrer le prêtre.
« Je vous demande pardon, monsieur l'abbé. Maman Théodore est sortie, et elle m'a bien recommandé de n'ouvrir à personne. »
Un instant, Pierre s'était imaginé que Salvat se trouvait là sans doute. Mais d'un coup d'œil, il eut vite fait le tour de l'unique pièce où s'entassait la famille. Madame Théodore devait craindre une visite de la police. Avait-elle revu le père? Savait-elle où il se cachait? Était-il revenu les embrasser et les rassurer toutes deux?
« Et votre papa, ma mignonne, et il n'est donc pas là non plus ?»«
Oh non, monsieur l'abbé, il a eu des affaires, il est parti. »«
Comment, parti ?»«
Oui, il n'est plus revenu coucher, nous ne savons pas où il est. »«
Peut-être qu'il travaille ?»«
Oh non, il enverrait de l'argent. »«
Alors il voyage ?»«
Je ne sais pas. »«
Il a sans doute écrit à maman Théodore. »
Je ne sais pas. »
Pierre cessa de la questionner, un peu honteux de vouloir faire causer ainsi cet enfant de 11 ans qu'il trouvait seul. Il se pouvait qu'elle ne sût rien, que Salvat n'eût pas même donné de ses nouvelles, par prudence. Et elle avait l'air très véridique, avec sa face blonde, douce et intelligente, à l'expression déjà grave, cette gravité que l'extrême misère donne aux enfants.
« C'est bien fâcheux que Madame Théodore ne soit pas là. Je voulais lui parler. »«
Mais, monsieur l'abbé, si vous désirez l'attendre, elle est allée chez mon oncle Toussaint, rue Marcadet, et elle ne peut pas tarder à revenir, car il y a plus d'une heure qu'elle est partie. »«
et elle débarrassa l'une des chaises sur laquelle traînait une poignée de menu bois ramassée dans quelques terrains vagues. La pièce, sans feu, était visiblement sans pain, dans une nudité glaciale. On y sentait l'absence de l'homme, la disparition de celui qui est la volonté et la force sur lequel on compte, même après des semaines de chômage. L'homme sort, bat la ville, finit souvent par rapporter l'indispensable, la croûte qu'on se partage et qui empêche qu'on ne meure. Mais l'homme parti, c'est l'abandon dernier, la femme et l'enfant en détresse, sans soutien ni aide. Pierre, assis, regardant cette pauvre petite créature, aux yeux bleus limpides, à la bouche grande qui finissait quand même par sourire, ne put s'empêcher de l'interroger encore. « Vous n'allez donc pas à l'école, mon enfant ?» Elle rougit un peu. « Je n'ai pas de souliers pour y aller. » Et il remarqua, en effet, qu'elle avait aux pieds de vieux chaussons en loques, d'où ses petits doigts rougis sortaient. « D'ailleurs, reprit-elle, maman Théodore dit qu'on ne va pas à l'école quand on ne mange pas. Elle a voulu travailler, maman Théodore, et elle n'a pas pu, à cause de ses yeux qui se mettent tout de suite à brûler et à pleurer. Alors, nous ne savons pas quoi faire. Nous n'avons plus rien depuis hier. Et c'est bien fini si mon oncle Toussaint ne peut pas nous prêter 20 sous. » Elle souriait toujours d'une façon inconsciente, tandis que deux grosses larmes lui noyaient les yeux. Et cela était si navrant, cette fillette enfermée dans cette chambre vide, n'ouvrant plus comme retranchée des heureux, que le prêtre, bouleversé, sentit se réveiller en lui sa furieuse révolte contre la misère, ce besoin de justice sociale qui seul maintenant le passionnait dans l'écroulement de toutes ses croyances. Au bout de 10 minutes, il s'impatienta, en songeant qu'il devait aller ensuite à l'usine Grandidier. « C'est bien étonnant que maman Théodore ne soit pas là, » répétait Céline. « Elle cause. » Puis elle eut une idée. « Si vous voulez, monsieur l'abbé, je vais vous conduire chez mon oncle Toussaint. C'est à côté, on n'a qu'à tourner le coin de la rue. »
« Mais puisque vous n'avez pas de souliers, mon enfant... »«
Oh, ça ne fait rien, je marche tout de même comme ça. »
Il s'était levé, il dit simplement
« Eh bien oui, ça vaut mieux, venez me conduire, je vais vous en acheter des souliers. »
Céline devint très rouge, elle se hâta de le suivre, après avoir refermé soigneusement la porte à double tour en bonne petite ménagère qui n'avait pourtant rien à garder. Madame Théodore, avant de frapper à la porte de Toussaint, son frère, pour tâcher d'emprunter 20 sous, avait eu l'idée de tenter d'abord la fortune auprès de sa sœur cadette, Hortense, mariée à un employé, le petit Chrétienneau, et qui occupait un logement de 4 pièces, boulevard Rochechouart. Mais c'était une grosse affaire, et elle ne s'était décidée à cette course qu'en tremblant, poussée à bout par l'idée de Céline qui l'attendait, à jeun depuis la veille. Toussaint, le mécanicien, le frère aîné, avait 50 ans. Lui était d'un premier lit. Son père, resté veuf, s'était remarié à une couturière toute jeune qui lui avait donné 3 filles, Pauline, Léonie et Hortense. Cela expliquait comment l'aînée, Pauline, comptait 10 ans de moins que Toussaint, et Hortense, la cadette, 18. Quand leur père mourut, Toussaint eut un instant sur les bras sa belle-mère et ses 3 sœurs. Le pis était que, tout jeune, il avait déjà femme et enfant. Heureusement, la belle-mère, active et intelligente, savait se débrouiller. Elle retourna comme ouvrière à l'atelier de couture, où Pauline se trouvait déjà en apprentissage. Elle y mit ensuite Léonie. Il n'y eut que la dernière, Hortense, gâtée, plus jolie et plus fine, qu'elle laissa s'attarder à l'école, fière de ses succès. Et plus tard, tandis que Pauline épousait le maçon Labitte et Léonie le mécanicien Salva, Hortense, entrée comme demoiselle de comptoir chez un confiseur de la rue des Martyrs, il y ait connaissance avec l'employé Chrétienneau, qui, séduit, en faisait sa femme, n'ayant pu en faire sa maîtresse. Léonie était morte jeune, quelques semaines après sa mère, toutes deux d'une fièvre typhoïde. Pauline, lâchée par son mari, vivant avec son beau-frère Salva, dont la fille l'appelait maman, mourait de faim. Et seule, Hortense portait le dimanche une robe de légère soie, habitait une maison neuve, était une bourgeoise, mais au prix d'une vie d'enfer et d'abominables privations. Madame Théodore n'ignorait point les embarras de sa sœur lorsque venaient les fins de mois. Aussi ne se risquait-elle qu'avec trouble à tenter ainsi un emprunt. Et puis Chrétienneau, peu à peu aigri par sa médiocrité, accusant sa femme, depuis qu'elle se fanait, d'être la cause de leur existence avortée, ne voyait plus la famille de celle-ci, dont il rougissait. Encore Toussaint était-il un ouvrier propre, mais cette Pauline, cette Madame Théodore qui vivait avec son beau-frère sous les yeux de l'enfant, ce Salva qui errait d'atelier en atelier, en énergumène dont pas un patron ne voulait, toute cette révolte, toute cette misère, toute cette saleté, avait fini par outrer le petit employé correct et vaniteux, que les difficultés de la vie rendaient méchant. Et il avait défendu à Hortense de recevoir sa sœur. Tout de même, en montant l'escalier de la maison du boulevard Rochechouart, où il y avait un tapis, Madame Théodore éprouva un certain orgueil à se dire qu'une parente à elle habitait dans ce luxe. C'était au troisième, un logement de 700 francs sur la cour. La femme de ménage, qui revenait vers 4 heures pour le dîner, était déjà là, et elle laissa passer la visiteuse qu'elle connaissait, tout en marquant une surprise inquiète de l'avoir osé se présenter de la sorte, si mal vêtue. Mais, dès le seuil du petit salon, Madame Théodore s'arrêta, saisie, lorsqu'elle aperçut sa sœur Hortense, effondrée et sanglotante, au fond d'un des fauteuils de reps bleu dont elle était si fière. « Qu'as-tu donc? Que t'arrive-t-il ? » À 32 ans, à peine, ce n'était déjà plus la belle Hortense. Elle gardait son air de poupée blonde, grande, mince, aux jolis yeux, aux beaux cheveux. Mais elle, qui s'était tant soignée, commençait à s'abandonner dans des peignoirs d'une propreté douteuse. Et ses paupières rougissaient, et sa fine peau se flétrissait. Deux couches successives, deux fillettes, l'une aujourd'hui de 9 ans, l'autre de 7, l'avaient beaucoup abîmée. D'ailleurs, très orgueilleuse, très égoïste, elle en était, elle aussi, à regretter son mariage, car elle s'était crue autrefois une beauté digne du palais et des carrosses de quelque prince charmant. Son désespoir était tel qu'elle ne s'étonna même pas de voir entrer sa sœur. « Ah, c'est toi! Ah, si tu savais quelle tuile encore au milieu des autres embêtements !» Tout de suite, Madame Théodore pensa aux petites, Lucienne et Marcel. « Tes filles sont malades ?»« Non, non, la voisine d'à côté les promène sur le boulevard. »« Ma chère, imagine-toi, me voilà encore enceinte !» D'abord, j'ai voulu croire à un retard, mais c'est le deuxième mois. Et tout à l'heure, après le déjeuner, quand j'en ai parlé à Chrétienneau, il est entré dans une colère affreuse. Il m'a crié avec toutes sortes de vilaines paroles que c'était ma faute, comme si ça ne dépendait que de moi. Ah, je suis la première attrapée. J'ai déjà assez de chagrin. Ses sanglots recommencèrent. Elle continuait, elle bégayait, disait leur stupeur, car depuis longtemps, ils ne se touchaient plus que pour le plaisir, résolus à tout plutôt que d'avoir un troisième enfant. Heureusement encore qu'il la savait incapable de le tromper, tant elle était molle et douce, désireuse avant tout de sa tranquillité. « Mon Dieu !» finit par dire Madame Théodore. « Vous l'élèverez comme les deux autres, cet enfant, s'il vient !» Du coup, la colère sécha les larmes d'Hortense. Elle se leva, elle cria. « Tiens, tu es bonne, toi. On voit bien que tu n'es pas dans notre bourse. Avec quoi veux-tu que nous l'élevions? lorsque nous avons déjà tant de peine à joindre les deux bouts. »
Et, oubliant la gloriole bourgeoise qui, d'habitude, la faisait se taire ou même mentir, elle exposa leur gêne, l'affreuse plaie d'argent qui les rongeait d'un bout de l'année à l'autre. Le loyer était déjà de 700 francs. Sur les 3000 francs que le mari gagnait à son bureau, restait donc à peine 200 francs par mois. Et comment faire là-dessus, lorsqu'il s'agissait de manger tous les quatre, de s'habiller, de tenir son rang? C'était l'habit indispensable pour monsieur, la robe neuve que madame devait avoir sous peine d'être déclassée, les souliers que les fillettes usaient en un mois, toutes sortes de frais à côté qu'il était absolument impossible de réduire. On rognait un plat, on se privait de vin, mais il y avait des soirs où il fallait quand même prendre une voiture. Sans parler du gaspillage des enfants, de l'abandon où la femme découragée laissait tomber le ménage, du désespoir de l'homme convaincu qu'il ne s'en tirerait jamais, même si un jour ses appointements montaient au chiffre inespéré de 4000 francs. Au fond, c'était la médiocrité intolérable du petit employé, aussi désastreuse que la misère noire de l'ouvrier. La façade fausse, le luxe menteur, tout ce que cache de désordre et de souffrance. La fierté intellectuelle de ne pas travailler à un étau ou sur des échafaudages.
« Enfin tout de même, » répéta madame Théodore, « vous ne l'étranglerez pas, ce petit !»
Hortense se laissa retomber dans le fauteuil.
« Non, bien sûr, mais c'est la fin de tout. Deux, c'était déjà trop, et en voilà un troisième. Qu'est-ce que nous allons devenir, mon Dieu? Qu'est-ce que nous allons devenir ?»
Et elle s'effondra dans son peignoir d'effet. Des larmes recommencèrent à ruisseler de ses yeux rouges. Très ennuyée de tomber si mal pour sa demande d'emprunt, madame Théodore, cependant, finit par se risquer, demanda 20 sous. Et cela mit au comble la confusion désespérée d'Hortense.
« Ma parole d'honneur, je n'ai pas un centime à la maison. Tout à l'heure, pour les enfants, je me suis fait prêter 10 sous par la femme de ménage. Avant-hier, on m'avait donné 9 francs au mont-de-piété sur une petite bague. Et c'est comme ça toujours à la fin du mois. Chrétienneau, qui touche aujourd'hui, va rentrer de bonne heure pour l'argent du dîner. Je te promets de t'envoyer quelque chose demain, si je peux. »
Mais à ce moment, la femme de ménage accourut, effarée, sachant que monsieur n'aimait guère les parents de madame.
« Oh, madame, madame, j'entends monsieur qui monte !»« Vite, vite, va-t'en » cria Hortense. « J'aurai encore une scène, si je peux demain, je te promets !»
Il fallut que madame Théodore se cachât au fond de la cuisine pour éviter Chrétienneau qui entrait. Elle l'aperçut, toujours bien mis, pincé dans une redingote, avec sa face mince, sa grande barbe soignée, son air vaniteux de petit homme sec et rageur. Ses 14 années de bureau déjà l'avaient desséché, et le café l'achevait, la passion des longues heures passées dans un café voisin. Elle se sauva.